Deutsche Welle, le journal. Claire-Marie Kostmann.
Jeudi 16 juillet 2015, bonsoir et bienvenue sur les ondes de la radio internationale allemande. Il est 17h en temps universel, 2h de plus dans nos studios, ici à Bonn, comme à Bujumbura. Au sommaire de ce journal, crise au Burundi, le ministre de la Défense ougandais à Bujumbura pour remédier à la crise, alors que le spectre de la guerre ethnique refait à nouveau son apparition. Visite historique du ministre allemand des Affaires étrangères à Cuba, les relations entre Berlin et Lille sont plutôt mal en point. La fin du Ramadan, grande fête pour les musulmans, mais pas pour les petites amies et leurs petits copains à cause de l'argent. Exemple dans le nord du Nigeria. Et on commence cette édition par les dernières nouvelles du monde. Bonsoir Philippe Pognan.
Bonsoir à tous. La BCE, la Banque Centrale Européenne, a décidé de relever de 900 millions d'euros sur une semaine le plafond des prêts d'urgence accordés aux banques grecques. C'est ce qu'a annoncé le président de la BCE à Francfort. Mario Draghi a justifié sa décision par l'accord trouvé en début de semaine sur le principe d'un troisième plan d'aide pour la Grèce de plus de 80 milliards d'euros et le vote dans la nuit de mercredi de première réforme par le Parlement grec. Première visite à Cuba d'un ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne non communiste. Frank-Walter Steinmeier est arrivé sur l'île des Caraïbes pour une visite de 2 jours. Après le rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et la Havane, le chef de la diplomatie allemande, accompagné d'une petite délégation économique, veut sonder les chances d'une coopération plus étroite entre l'Allemagne et Cuba. Nous y reviendrons dans le courant de ce journal. En France, après qu'un projet d'attentat terroriste ait été déjoué, de nouveaux détails ont été révélés par les enquêteurs. Les suspects arrêtés projetaient de décapiter un officier de la caserne Fort Béard, près de Collioure, dans le sud du pays, et de filmer l'exécution pour en diffuser les images sur Internet. Auparavant, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait annoncé que 4 suspects, âgés de 16 à 23 ans, avaient été arrêtés lundi par les services de renseignement intérieur, en région parisienne, près de Marseille, dans le sud et dans le nord de la France. Le plus jeune a été entre-temps relâché. Les 3 autres gardés à vue se réclament de l'État islamique. En Turquie, les gardes-côtes ont sauvé plus de 1300 migrants en mer Égée en l'espace de seulement 5 jours. Depuis le début de cette année, plus de 14 000 migrants sont arrivés sur les côtes turques, pour la plupart des Syriens fuyant la guerre civile dans leur pays. La Turquie abrite à ce jour plus de 1 800 000 réfugiés syriens. Ce jeudi, 6 Syriens candidats à l'immigration sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large des côtes turques alors qu'ils tentaient de rejoindre l'île grecque de Lesbos. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est prêt à envoyer des soldats combattre à l'étranger. Sur fond de tension avec la Chine, la chambre basse du Parlement japonais a voté en session plénière un projet de loi en ce sens. Cette réinterprétation de la constitution pacifiste, qui rendrait possible l'envoi à l'extérieur des forces d'autodéfense, c'est le nom officiel de l'armée, pour venir en aide à un allié, rencontre une vive opposition dans le pays. Les partis d'opposition ont boycotté le scrutin. Les textes ont été adoptés par la coalition au pouvoir du Premier ministre Shinzo Abe. La Chambre haute doit encore entériner le projet. Enfin, l'un des 7 responsables de la FIFA, arrêté en Suisse fin mai à la demande des autorités américaines dans une affaire de corruption, a été extradé hier mercredi vers les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé l'Office fédéral de la justice helvétique, sans toutefois confirmer officiellement son nom. Les 7 dirigeants anciens et actuels de la FIFA avaient été arrêtés à Zurich et placés en détention en vue de leur extradition sur demande des autorités américaines. Les demandes se fondent sur des mandats d'arrêt émis le 20 mai par le parquet du district Est de New York, qui soupçonne ces personnes d'avoir accepté des pots de vin pour plus de 100 millions de dollars. Les autorités suisses enquêtent aussi de leur côté sur les attributions controversées des Coupes du Monde 2018 à la Russie et 2022 au Qatar.
Le ministre ougandais de la Défense a pris le relais de son président, Yoweri Museveni, à Bujumbura, au Burundi. Crispus Kiyonga est arrivé dans la capitale à la mi-journée par avion. Les délégations vont se retrouver autour de lui pour discuter et tenter de dénouer la crise politique autour du possible 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Le temps presse avant la présidentielle prévue mardi, le 21 juillet, et la crise risque de se transformer en une guerre ethnique. Les explications de Kossi Vitiassou, notre envoyé spécial à Bujumbura.
Ici au Burundi, si presque tous les acteurs politiques sont unanimes sur un fait, c'est effectivement le clivage Hutu-Tutsi qui revient chaque fois que le pays traverse un moment difficile, comme le rappelle l'ancien président Sylvestre Ntibanya.
Le sectarisme est assimilable ici chez nous à l'ethnisme dont nous connaissons les effets ravageurs depuis l'indépendance de ce pays.
Un fait réel que reconnaît aussi Joseph Ndaïsaba, analyste sociopolitique à Bujumbura. Pour lui, le problème ethnique trouve son origine dans l'histoire du pays.
Il y a eu dernièrement des discours de certains responsables du CNDD-FDD qui ont carrément versé dans l'ethnisme. Je vois que ceux qui parlent effectivement des pouvoirs qui se recroquevillent sur des sympathies ou des divisions ethnistes ou régionalistes, ça ne date pas d'aujourd'hui. En réalité, si vous observez toutes les crises qu'il y a eu au Burundi, depuis la grosse crise de 72, en 72, c'était un pouvoir effectivement qui s'était concentré sur le clanisme et le régionalisme. C'est ça d'ailleurs qui a fini par provoquer le coup d'État contre le régime Micombero.
En 1972, des élites Hutus ont été éliminées par des Tutsis pour avoir fomenté un coup d'État. Parmi les victimes, le père du président actuel et de certains ministres. Certains les accusent de mener une politique de revanche. Joseph Ndaïsaba.
Je crois que c'est tout à fait vrai. Sociologiquement parlant, ça s'explique. Vous savez, là, en 72, toutes ces personnes dont vous venez de parler, vous pouvez citer beaucoup de cas. C'est des gens dont les parents, effectivement, ont été assassinés en 72. Effectivement. Alors, psychologiquement, quand ils prennent le pouvoir, ça veut dire quoi? Ils prennent la revanche sur l'histoire.
Le dialogue politique a repris ce soir et l'un des sujets prioritaires est la situation sécuritaire qui se dégrade toujours dans le pays. À Bujumbura, Kossi Vitiassou pour la Deutsche Welle.
Et par rapport à cette situation sécuritaire, des affrontements ont opposé cette nuit l'armée burundaise à des groupes armés dans le nord du pays, dans la province de Cibitoke, selon des sources militaires. Il y a au moins 8 morts parmi les assaillants et des armes ont été saisies. En bref, le parti d'opposition rwandais FDU dénonce la détérioration des conditions de détention de sa présidente. Victoire Ingabire dans la prison de Kigali. Son avocat n'a pas pu lui rendre visite. Sa cellule est plongée dans le noir. C'est de la torture morale, s'insurge le FDU. Victoire Ingabire a été condamnée à 15 ans de prison pour conspiration et minimisation du génocide de 1994 contre les Tutsis. Toujours dans la région, selon le ministère kényan de l'Intérieur, 30 islamistes Shebab ont été tués par un drone dans un raid américain en Somalie. Il survient une semaine avant une visite au Kenya du président américain Barack Obama. L'ONG Global Witness, accusatrice en République centrafricaine, selon elle, des entreprises forestières internationales ont rémunéré dans le pays des membres de groupes rebelles pour pouvoir exporter illégalement du bois. Ceci alors même que la Centrafrique était confrontée à une crise sécuritaire et elle tente aujourd'hui de s'en relever. Le bois centrafricain vendu d'avril 2013 à janvier 2014 doit être considéré comme du bois du conflit, selon Global Witness, car ses exportations ont contribué à financer des crimes de guerre. Carole Assignon.
Dans ce rapport intitulé « Bois de sang, comment l'Europe a aidé à financer la guerre en République centrafricaine », Global Witness assure que les exploitants forestiers ont versé plusieurs millions d'euros aux ex-Séléka et Antibalaka, contrôlant des portions de territoire. Des versements qui leur assuraient de poursuivre les coupes et les exportations de grumes. Outre le secteur de l'extraction minière, notamment le diamant, le secteur forestier est l'une des principales ressources d'exportation de la Centrafrique. S'il existe pour le diamant le processus de Kimberley qui permet d'exclure du marché international toute marchandise liée à un conflit, le commerce du bois lui échappe au contrôle. Brice Kevin Kakbayen est l'un des représentants de la société civile au Conseil national de transition qui fait office de parlement en Centrafrique.
Tous ce qui est jugement aurifère, diamantifère, soit sous contrôle des groupes armés. Pendant plus de 2 années où nous avons passé, traversé ce moment de turbulence, beaucoup de nos biens ont été pillés, volés, sans aucune autre traçabilité.
Dans son rapport, Global Witness met particulièrement en cause 3 groupes forestiers, notamment français, chinois et libanais, et demande aux États membres de l'Union européenne de rompre tous les liens commerciaux et d'aide avec le secteur forestier de la RCA. Mais pour Brice Kevin Kakbayen, d'autres pistes peuvent être explorées.
Ce qu'il y a lieu à faire maintenant, l'Union européenne, qui encadre le processus APV Select en République centrafricaine, partage ce document avec le gouvernement, que les parties se rassemblent autour d'une table pour discuter et voir quelles solutions on peut apporter d'encadrer encore le secteur, couper cette relation du coup avec la République centrafricaine. Ça va entraîner encore plusieurs conséquences et ça va être une remise en cause systématique, ce qui risque fort de nous faire revenir encore à la case du départ.
Aujourd'hui, selon les autorités centrafricaines, les camions chargés de bois sont désormais escortés par les forces onusiennes de la MINUSCA, mais de gros efforts doivent encore être fournis pour assainir le secteur.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Et il est 19h11 ici à Bonn. Le port du voile islamique intégral est interdit dans l'extrême nord du Cameroun. Dimanche, 2 attaques suicides de femmes vêtues du voile ont fait 11 morts à Fotokol. Les autorités ont suivi l'exemple du Tchad, où le voile intégral est aussi interdit dans le pays, qui est la cible d'attentats de Boko Haram. Boko Haram qui joue les troubles fêtes pendant le ramadan et la fin du mois de jeûne. Normalement, cette date est synonyme de fête pour les croyants. Au Nigeria, les forces de sécurité ont recommandé aux habitants de rester vigilants durant ce week-end de l'Eid el-Fitr. Khalifa Dikwa est professeur à l'université de Maïdougouri, dans le nord du Nigeria. Il décrit l'atmosphère de cette fin de ramadan au micro de Milena Pellegrini.
Franchement, le ramadan, même avant le ramadan, c'est presque comme le ramadan parce que la population n'a pas beaucoup à manger, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'activité économique ni activité sociale. On voit les tailleurs, surtout avec les habits des enfants, tout ça. Il y aura des festivités pour les enfants, mais pas les adultes, les grandes personnalités. Parce que s'ils ont assez d'argent, quelque part, dans un autre état, dans un autre pays, ils s'arrangent à sortir pour aller au pèlerinage, au petit pèlerinage, et puis ne reviennent qu'après la fête.
La fin du mois de Ramadan a aussi des conséquences pas forcément connues sur les couples non mariés. Toujours dans le nord du Nigeria, de nombreuses jeunes femmes ont vu leur petite amie, au singulier ou au pluriel, mettre fin à leur relation amoureuse la veille de la fête, car les cadeaux à leur faire sont trop nombreux et trop chers vu la situation économique difficile que traverse la région. Gwendoline Hilsa, Bob Barry.
Dans le monde musulman, la fin du ramadan est l'une des célébrations festives les plus importantes. Pendant le mois de jeûne, le musulman implore la grâce divine pour des jours encore meilleurs. Or, dans le nord du Nigeria, cette grâce divine semble s'éloigner des populations. Les attaques terroristes de Boko Haram sont presque quotidiennes et la situation économique ne cesse de se dégrader. Dans ces conditions, de nombreux Nigériens du nord préfèrent abandonner leur petite copine pour économiser le peu d'argent qu'ils gagnent. Maïmouna Mohamed explique comment ses 3 prétendants l'ont quitté la veille de la fête.
Ils m'ont demandé les cadeaux qu'ils pourraient m'acheter pour la fête. Je leur ai expliqué qu'ils pourraient m'en offrir plusieurs, des chaussures, des vêtements, de l'argent pour me faire tresser les cheveux et me donner de l'argent de poche. Le lendemain, ils ont disparu à cause de ce que j'ai dit.
Maïmounatou est vexée par le comportement de ses 3 amants dans une société dominée par l'islam, mais au-delà des considérations religieuses, c'est plutôt la crise économique qui fait fuir les jeunes gens. Ce jeune Nigérian, par exemple, qui a préféré s'exprimer sous anonymat, raconte.
C'est à cause de ma situation financière. Normalement, on dépense de l'argent qu'on a sur soi pour la fête. Mais pour le moment, je n'ai pas d'argent, donc je dois éviter mes copines jusqu'après la fête. J'ai presque 4 ou 5 copines. Et je suis obligé de dépenser 10 000 naira pour chacune. Au total, cela fait 50 000 naira. Comment puis-je trouver 50 000 avec la situation économique que traverse le pays ?
Depuis plusieurs années, l'économie nigériane ne cesse de stagner. L'exploitation du pétrole ne profite pas non plus aux régions du Nord et les Nigériens qui y vivent ont moins d'argent pour faire face aux dépenses liées aux relations amoureuses. Une mauvaise affaire pour les commerçants, couturiers et autres bijoutiers de la région.
Au Libéria, la réapparition du virus Ebola fin juin est sans doute due à une contamination par un survivant encore porteur de la maladie, selon les autorités sanitaires. Un deuxième décès a été signalé à Monrovia. Un soignant et 6 malades ont été recensés. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez vous exprimer sur les éléments diffusés dans le journal, allez sur notre page Facebook.
Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
On part à l'autre bout de la planète. Frank-Walter Steinmeier est à Cuba pour 2 jours. C'est la première visite sur l'île d'un ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne non communiste, c'est-à-dire réunifiée. Une visite qui intervient en plein réchauffement des relations diplomatiques entre Washington et la Havane. Astrid Prange de Oliveira et Audrey Parmentier.
La dernière visite d'un ministre allemand à Cuba remonte à 2001, mais les relations entre les deux pays datent, elles, des années 70, au moment de la guerre froide et de la RDA. L'Allemagne de l'Est entretenait alors de bons rapports avec le pays de Fidel Castro. Klaus Bartel est président du groupe parlementaire germano-sud-américain.
Il est temps de laisser cette phase de l'histoire derrière nous. J'aurais préféré que cela ait lieu bien plus tôt. Pendant la guerre froide, le gouvernement allemand aurait dû agir différemment vis-à-vis de Cuba. Il y a d'autres pays occidentaux qui l'ont fait. Et rétrospectivement, je considère cela comme une erreur d'avoir confié les relations avec Cuba à la RDA. Cela nous complique un peu la tâche.
Et quelle tâche ? Frank-Walter Steinmeier entend intensifier les relations bilatérales et créer des partenariats politiques, économiques et culturels avec Cuba. Pour ce faire, le chef de la diplomatie allemande doit s'entretenir avec son homologue cubain, mais également avec des membres de la société civile, comme lors de n'importe quelle visite officielle, ce que salue Klaus Bartel.
Il nous faut désormais nouer des relations normales avec Cuba, d'égal à égal, et cesser de toujours pointer ce pays du doigt. Et plus généralement, je pense que l'Europe doit jouer un rôle plus important en Amérique latine et être perçue comme un partenaire. La dernière fois que je me suis rendu à Cuba, c'était en 2012, quand ce qu'on nomme le processus d'adaptation a été lancé. Je crois que nous n'avons pas perçu ce qui se jouait alors dans ce pays. Les États-Unis ont été beaucoup plus rapides que nous. Nous, on a raté le coche.
Les États-Unis qui ont compris tout de suite l'importance des réformes économiques qui sont intervenues dans le pays. Depuis, les chefs d'État et de gouvernement européens se pressent à leur tour à Cuba, ainsi que les touristes. Chaque année, ils sont 3 millions à se rendre sur l'île et la plupart d'entre eux viennent du vieux continent.
Et Cuba séduit de plus en plus jusqu'au pape François. Il se rendra à la Havane en septembre avant d'aller en visite aux États-Unis. La branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique revendique une attaque au missile contre un bateau de la marine au large de la péninsule du Sinaï. L'armée avait auparavant annoncé qu'un bateau de la marine avait pris feu lors d'affrontements entre des djihadistes et des militaires. Et je vous parlais tout à l'heure de Boko Haram, la secte islamiste qui venait perturber la fin, les fêtes de la fin du Ramadan. On apprend une double explosion dans un marché du Nord-Est, selon des témoins. Nous vous en dirons plus dans la suite du journal. Dans un petit peu plus de 10 minutes, vous entendrez le magazine Droits et Libertés. Le thème aujourd'hui, le génocide namibien, à l'occasion du 100e anniversaire de la fin de la colonisation du pays par l'Allemagne. Et puis place à une rediffusion d'économie et développement avec l'écrivain suisse et connaisseur du monde de la finance, Martin Suter. À Addis Abeba, les leaders mondiaux concluent un accord lors de la conférence sur le financement du développement. Les pays du Sud et du Nord se sont entendus sur un cadre économique afin de soutenir le programme de développement durable. Objectif, trouver plus de 2,5 milliards de dollars. Mais les pays en voie de développement ont dû renoncer à certaines de leurs exigences et pas des moindres. Kate Bolongaro nous fait le bilan de ces négociations.
Le nouvel accord est censé établir un financement sur le développement durable pour les 15 prochaines années. En outre, les pays développés se sont engagés pour investir plus dans les pays du Sud afin d'enverser le déclin de l'aide. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a salué l'accord, mais a déclaré qu'il est aussi nécessaire de trouver des nouvelles sources de financement.
L'accord ne peut pas être rempli par des fonds publics. C'est pourquoi nous allons avoir besoin d'un partenariat très fort avec le secteur privé. Je suis très content de cet engagement fort des acteurs économiques.
Malgré tout, les pays du Sud ont renoncé à leur but de créer un organisme international de lutte contre l'évasion fiscale sous la pression des États-Unis et de l'Europe. Selon Winnie Byanyima, la directrice générale de l'ONG Oxfam, les pays du Sud restent toujours défavorisés dans un programme de développement contrôlé par l'Occident.
Si la communauté internationale veut avoir un programme de développement que tous les pays s'approprient, il doit aussi y avoir un système de coopération fiscale qui permette aux pays en développement de recueillir tous les impôts dont ils ont besoin pour financer leur développement. Il s'agit d'une lutte de pouvoir.
Pour Eva Joly, l'accord réaffirme le pouvoir de l'Occident sur les pays du Sud. La députée européenne met en doute l'efficacité de l'accord comme elle est écrite.
Cet accord est un nouveau colonialisme et rien d'autre. Nous devrions le combattre et pour moi, cela est le prix de la paix. Il n'y aura pas de paix si nous ne pouvons pas être d'accord sur la façon dont les impôts devraient être partagés.
Malgré les critiques, les délégués pensent que la conférence a été un succès.
Et Philippe Pognon est de nouveau avec moi dans le studio pour la revue de presse. Ce jeudi, la plupart des journaux allemands commentent le procès de Lüneburg contre Oskar Gröning. Cet ancien SS et comptable du camp de concentration d'Auschwitz, âgé aujourd'hui de 94 ans, a été condamné à 4 ans de prison pour complicité dans le meurtre de 300 000 déportés juifs philippins.
La Süddeutsche Zeitung se penche sur les crimes de l'époque nazie et rappelle que des centaines de milliers de personnes ont fait partie activement de l'appareil meurtrier de la dictature nationale-socialiste. Que ce soit au quartier général du Führer, au siège central de la sécurité du Reich et de la Gestapo ou dans des services administratifs subalternes, du haut fonctionnaire au petit employé de l'administration, dressant avec acribie les listes de tous les habitants juifs du Reich dans les villes, les villages et les campagnes, en sachant parfaitement que tous ces juifs figurant sur ces listes seraient déportés. Si au cours des dernières décennies on avait appliqué plus tôt les critères du tribunal de Lüneburg, la majeure partie de ces Allemands, gros ou petit rouage de la machinerie nazie aurait dû être accusé et condamné, conclut le journal de Munich. Dans le cas de criminels nazis, la pratique juridique appliquée depuis des décennies jusqu'ici en Allemagne était de ne condamner les accusés que si on pouvait prouver qu'ils avaient eux-mêmes directement perpétré un meurtre individuel, s'indigne la Taz, die Tageszeitung de Berlin, qui se félicite par ailleurs que la sentence de Lüneburg mette fin à cette pratique. L'hebdomadaire Die Zeit de Hambourg estime, lui, que c'est à juste titre qu'Oskar Gröning a dû comparaître en justice et qu'il a été condamné pour complicité de meurtre. Cela est un signal pour tous les bourreaux et autocrates du monde entier que tant qu'ils sont encore en vie, ils ne pourront compter échapper à la justice.
Philippe, plusieurs journaux évoquent les motivations des survivants du camp de la mort venus témoigner devant le tribunal de Lüneburg dans le nord de l'Allemagne.
Oui, le quotidien de Cologne, Kölner Stadtanzeiger, relève que pour les témoins qui ont survécu à l'enfer d'Auschwitz, il ne s'agissait pas de savoir Gröning derrière les barreaux, mais de pouvoir témoigner, raconter ce qui s'est passé, pour que chacun comprenne, y compris la justice allemande. Une justice qui, jusqu'ici, a failli de manière notoire dans la poursuite pénale des meurtriers de masse nazis. Et le quotidien Badische Zeitung souligne que les témoignages des survivants de l'Holocauste ont clairement rappelé à l'Allemagne et au monde les effroyables crimes nazis commis au nom d'une idéologie raciste. C'est important à une époque où des incendies criminels sont perpétrés sur des foyers d'asile pour réfugiés, où des gens descendent dans la rue pour crier leur haine de l'étranger et où les néo-nazis en Allemagne se font remarquer par leurs paroles xénophobes et leurs actes de violence, conclut l'éditorialiste.
Merci Philippe, il est un petit peu plus de 19h24 et maintenant on passe au sport.
Deutsche Welle, le sport. Ali Farhat.
Le sport, c'est donc avec Ali Farhat, l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, a livré sa liste des 10 prétendants au titre de footballeur de l'année.
Et sans surprise, les deux clubs qui se sont tissés en finale de la Ligue des Champions, à savoir la Juventus et le FC Barcelone, eh bien, ce sont les clubs qui présentent les plus gros contingents. Ils sont 5 du côté des Bianconeri, à savoir Gianluigi Buffon, Paul Pogba, Andrea Pirlo, Arturo Vidal et Carlos Tevez. Et 3 du côté des Blaugrana, Lionel Messi bien sûr, Luis Suarez et Neymar. Le Portugais Cristiano Ronaldo, qui a été lauréat l'an dernier, et le Belge Eden Hazard viennent compléter cette liste. Le nom des 3 finalistes sera révélé le 12 août prochain, verdict le 28 août. Aux États-Unis se joue en ce moment la Gold Cup, l'équivalent américain de la Coupe d'Afrique des Nations. On connaît les affiches des quarts de finale. Les États-Unis justement affronteront Cuba. Le vainqueur de cette rencontre jouera contre le vainqueur du match Haïti-Jamaïque. De l'autre côté du tableau, on aura le droit à Trinité et Tobago contre Panama et Mexique contre Costa Rica. Les quarts de finale se joueront les 18 et 19 juillet prochains. Enfin, en basketball, quelques mouvements intéressants en NBA, le championnat américain. Luke Mbah-Amoute retourne aux Kings de Sacramento, en Californie. L'ailier camerounais y avait fait un passage en 2013. Il a signé un contrat d'un an et portera le numéro 13. Par ailleurs, les Jazz de Utah ont signé l'Allemand Tibor Pleiss, le géant de 2m18 qui évoluait jusqu'à présent au FC Barcelone, s'est engagé pour plusieurs saisons avec la franchise de l'Ouest. Aux États-Unis, il retrouvera ses compatriotes Dennis Schroeder, qui est meneur aux Hawks d'Atlanta, et Dirk Nowitzki, l'ailier de Dallas. Et justement, en parlant de Dallas, les Mavericks ont engagé Deron Williams, qui évoluait au Brooklyn Nets. Ils sont désormais 3 meneurs chez les Mavericks, Deron Williams donc, mais aussi JJ Barea et Raymond Felton. 3 joueurs qui ont la particularité de jouer au même poste et surtout d'être nés le même jour, à savoir le 26 juin 1984.
Et le sport revient demain dans Info Matin à partir de 7h TU. Et puis un petit mot pour saluer un nouveau repreneur et ses auditeurs qui sont aussi les nôtres et on les remercie. La radio et télévision communautaire Taïna RTCT à Goma dans l'est de la RDC retransmet nos journaux depuis lundi sur 88.2 en FM. Et merci à Valérie Moukosansengue pour l'info. Et tout de suite, on passe à votre rendez-vous, la page de l'auditeur et de l'internaute présentée par Mireille Drone. Bonsoir Mireille.
Bonsoir Claire-Marie.
Et ce soir, vous avez des commentaires sur le Burundi.
Et oui, Juvénal de Bujumbura au Burundi espère que les négociations qui se poursuivent dans la capitale burundaise en présence du ministre ougandais de la Défense aboutiront à une conclusion constructive. S'ils arrivent à la solution pour cette crise, ce sera une gloire pour le Burundi, pour la région et pour l'Afrique, estime de son côté Thierry de Bujumbura. Mais il se demande s'il y a réellement un point commun dans leur dialogue pour pouvoir espérer. Wait and see, écrit-il. Plus pessimiste, Durand de Bujumbura toujours pense qu'il n'y a rien à espérer parce que l'opposition veut des négociations alors que le président Pierre Nkurunziza poursuit sa campagne pour la présidentielle.
Et la question du troisième mandat du président préoccupe nos auditeurs.
Et oui Claire-Marie, rien ne sera possible si le dictateur Pierre Nkurunziza ne laisse pas cette troisième candidature. C'est ce qu'affirme Abou depuis Mombasa au Kenya. Et Moussa de Gekedou en Guinée demande aussi que Pierre Nkurunziza se retire de cette course à la présidence de la République. Selon Marouf d'Osogbo au Nigeria, Yoweri Museveni n'est pas un médiateur crédible. Il lui est impossible d'aborder la question du troisième mandat. Marouf s'attend donc à un énorme fiasco. Mais si le président renonçait à son projet de troisième mandat, ce serait une décision courageuse et la solution pour le Burundi. Le régime doit faire ce sacrifice, écrit Marouf. Hyacinthe de Nyanga au Congo-Brazzaville nous a laissé, lui, un message sur notre répondeur téléphonique.
Le non-retrait jusqu'ici de la candidature de Pierre Nkurunziza est un aveu d'une mauvaise lecture de la constitution burundaise de la communauté internationale, mais aussi un laisser-aller à modifier les constitutions. Ce sont des plans d'affaiblissement de la démocratie.
Enfin, Mamadou, depuis Tombouctou au Mali, adresse ses vœux à tous les musulmans du monde entier en cette fin de mois de carême. Des vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Et Mamadou souhaite que tous les musulmans se donnent la main afin que la paix règne sur le monde entier.
Et vous parliez de paix. Dans le journal, nous avons parlé de la fin du mois de Ramadan dans le nord du Nigeria. Une double explosion a retenti sur le marché central de Gombe, la capitale de l'état du même nom dans le nord-est du Nigeria, tuant de nombreuses personnes selon des témoins. Actuellement, aucun bilan n'est disponible. Merci Mireille pour la page de l'auditeur et tout de suite, place au magazine avec Sandrine Blanchard qui présente Droits et libertés sur les hackers et le génocide namibien.
Deutsche Welle. Droits et libertés.